sommes juste à côté de Villequier, où nous étions hier pour parler de la mort de Léopoldine Hugo et de la fin des amours de Guillaume Apollinaire et de Marie Laurencin. Nous sommes donc juste à côté de Villequier, à Côtebec-en-Caux. Et il y a un lieu dit à Côtebec-en-Caux qui s'appelle la Bariva, en relation avec le Mascaret qui remonte la Seine et dont je vais parler. La Bariva, c'est le titre, vous en souvenez, de l'une des aventures d'Arsène Lupin qui se passe donc ici, dans un Côtebec que Maurice Leblanc a rebaptisé Radicatel. Et cette barre, c'est tout simplement le flot qui remonte. Pendant les grandes marées, le violent flux marin qui pénètre dans l'estuaire rencontre le flux du fleuve, et l'étroitesse des berges déterminant un renversement du courant, c'est une lame puissante qui remonte la Seine au lieu de la descendre. C'est ce qu'on appelle la barre, et la barre y va, c'est-à-dire qu'elle remonte jusqu'à Côtebec, ou plutôt qu'elle remontait avant que les berges de la Seine ne soient arrangées pour atténuer ce phénomène. Les chroniques nous offrent des descriptions absolument impressionnantes avec le gros rouleau écumeux remontant le fleuve à la vitesse d'un cheval au galop, puis venant se fracasser sur les rives en inondant les quais. La Bariva est un des romans de la dernière partie de la vie de Maurice Leblanc et date des années 30. Lupin et Leblanc ont, ainsi qu'il est normal, vécu ensemble des vies parallèles. D'abord l'ascension impétueuse d'Arsène Lupin, de la comtesse de Cagliostro à l'Aiguille Creuse, et pour Leblanc, des premiers articles à la gloire, au second mariage, au château de Tancarville, où il allait habiter chez sa sœur. Et puis vint la rupture de la guerre. Leblanc est trop vieux pour être rappelé sous les drapeaux, il perd un neveu, il est profondément affecté par le conflit, et quant à lui, Lupin connaît, de la fin de 813 jusqu'à l'île aux 30 cercueils, des aventures plus sombres. Il apparaît d'ailleurs moins. Il apparaît à peine dans l'île aux 30 cercueils, à peine plus dans l'éclat d'obus. Il n'est plus le centre de l'action. Il n'est que l'agent final d'une providence française et bienveillante. Cette deuxième période a donné de très belles pages, comme celle de la description de Paris sous le couvre-feu dans le Triangle d'or, qu'on peut lire en parallèle de celle que donne Marcel Proust dans La recherche du temps perdu. Puis vient la troisième manière, celle de l'apaisement. Lupin est au fait de sa puissance. Il est reconnu, même s'il est pourchassé, il est célébré, glorieux et moral, et il résout toutes sortes d'énigmes jusqu'à sa retraite finale au Clos Lupin, jusque pour Leblanc à sa retraite finale dans la villa d'Étretat, où ce sera la fin de leur voyage en commun. De la deuxième période, l'aventure qui recommence avec les 8 coups de l'horloge est pour moi son chef-d'œuvre, celui d'un nouvelliste fantastique, d'un Mérimée qui n'aurait voulu faire peur à personne. Bien sûr, dans la deuxième période aussi, il y a des drames, dans Les Dents du Tigre, dans laquelle Cagliostro se venge, mais ces drames n'ont pas l'intensité des drames de la première période et encore moins de la période de la guerre. Le monde a perdu les couleurs chatoyantes et innocentes de 1900, il est plus gris, il est plus organisé, il est plus mécanique. Ce monde des années 30 a parfois, dans les livres de Leblanc, la tristesse immobile d'un salon de Ruhlmann. Mes grands-parents vivaient avec des meubles de ce genre, des meubles froids qui me semblaient mieux faits pour les accords de Munich que pour les intrigues sentimentales. À peu d'exceptions près, la nostalgie des Lupiniens les a fait se projeter quand ils se sont mêlés d'écrire des pastiches, ces pastiches qui nous réjouissent aujourd'hui et grâce auxquels le cycle de Lupin paraît rester ouvert pour l'éternité. La nostalgie de ces Lupiniens donc les a portés plutôt vers la première période, celle d'avant 1914. Que ce soit Boileau et Narcejac dans Le secret de Nerville ou Michel Zinc dans Le mystère d'Arsonval. Michel Zinc relève à juste titre dans une préface que Leblanc partage avec Lupin le goût de la modernité, pratiquant le vélo, l'automobile, le paquebot, le téléphone et la télégraphie sans fil. Mais curieusement, ces instruments sont moins mis en valeur dans les derniers livres. La guerre est passée par là. La technique a été mise au service du massacre. Le téléphone a déplacé des divisions d'infanterie pour les amener au chemin des dames et les torpilles ont coulé le Lusitania. Les 8 coups de l'horloge, comme la Bariva, semble plus statique, presque craintif, moins moderne. Les traits distinctifs de Lupin sont toujours là, bien sûr, mais comme nimbés d'une lumière grise, et même les crimes suscitent comme un nouveau sentiment d'horreur, puisqu'ils viennent, non pas trancher sur la période heureuse de 1900-1910, mais au contraire s'ajouter encore aux crimes de l'histoire, aux massacres de masse, donnant le sentiment d'une gratuité imbécile et d'un entraînement mécanique au crime, et pour finir, de la folie des hommes, comme dans cette nouvelle des 8 coups de l'horloge qui s'appelle « La dame à la hache » et qui reste pour moi l'une des plus belles. Si on se fie à cette analyse, la Bariva combine des traits nouveaux et des traits anciens dans l'œuvre de Lupin. Ou plutôt un trait nouveau dont je parlerai d'abord et qui est le grotesque. Le grotesque apparaît avec la guerre. Le rentier d'après-guerre dans Maurice Leblanc est plus ridicule que le rentier d'avant-guerre. Ici, Monsieur Guersin dans La Bariva. Et ses lubies de fabricant d'or le font ressembler à Bouvard et Pécuchet. La guerre est passée. L'épargne française a financé les Russes qui ont fait défaut. La révolution menace, le franc est menacé. Le rentier est aussi dérisoire que l'ordre. On n'en est pas chez Leblanc à la protestation surréaliste, bien sûr. Mais ce n'est plus le monde de 1900 et le désenchantement est là. Le policier aussi est beaucoup plus ridicule après 1914 qu'avant. Les personnages de domestiques eux-mêmes, attachants autrefois parce qu'ils servaient un ordre finalement bénéfique, au moins dans les yeux de Maurice Leblanc, deviennent détestables comme s'ils étaient coupables de continuer à servir cet ordre après qu'il ait déçu et qu'il ait abouti au massacre général. Ainsi, dans La Bariva d'Arnold, le voleur, ancien acrobate de cirque. Tout ça est nouveau et un peu triste. Les très anciens, eux, sont toujours là, et j'en donnerai deux, l'amour gemellaire et le lien du passé et du présent. L'amour gemellaire est chez Leblanc une figure récurrente. Lupin aime en même temps, comme le ferait un macroniste, en même temps et d'abord la devise d'Arsène Lupin. Soit il aime deux femmes entièrement dissemblables, Clarisse Détigue et Joséphine Balsamo, la demoiselle aux yeux verts ou Miss Bakefield, l'anglaise aux cheveux roux. Soit il aime deux femmes très semblables et que des détails de vie distinguent, Antonine et Clara dans La femme aux deux sourires. Soit, comme dans La Bariva, il aime deux sœurs, Bertrande et Catherine, sans parvenir à se décider, et pour finir, se retrouve seul. Michel Zinc, dans une préface remarquable, a relevé que le sentiment d'humiliation était au centre des aventures d'Arsène Lupin. Il est très souvent humilié au début de sa carrière d'aventurier, puis ayant acquis sa pleine stature, il humilie indistinctement les autres, qu'ils soient bons comme Beautrelet, mauvais comme Vronsky ou indifférents comme la plupart des serviteurs de l'ordre. Lupin se venge d'une enfance humiliée, comme Monte Cristo, de son enfermement arbitraire. Mais au fond, l'humiliation du héros dure jusqu'à la fin dans l'univers sentimental. Il ne choisit pas, il trahit, il est trahi, les femmes le quittent et meurent, des rivaux méprisables lui sont préférés, comme il le dit lui-même, à la fin de La Cagliostro se venge. Et pour finir, s'il conquiert, s'il aime, s'il est aimé, ses triomphes ne sont jamais durables et il se retrouve aussi seul que ces femmes abandonnées que furent sa mère et sa première fiancée Clarisse Détigue, que Maurice Leblanc a placée au début de ses aventures. À la fin de La Bariva, ce n'est pas avec l'une des sœurs qu'il s'en va, faute d'avoir pu choisir, mais avec le brigadier Béchou, en camarade et, comme on dit, à tombeau ouvert. Quant à la gémellité, j'éprouve un certain plaisir nostalgique que on me pardonnera, j'espère, à l'évoquer ici, moi qui ne suis pas Arsène Lupin, mais qui me suis épris de deux jumelles en classe de 5e. C'était l'époque des premières grandes sorties scolaires et nous allions de Jumièges à Honfleur. Elles s'appelaient Laure et Odile et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Mais les camarades avec lesquels je me suis consolé en parcourant le monde étaient heureusement bien plus remarquables que le brigadier de police Béchou. Le second trait, c'est le passé caché sous le présent comme dans L'Aiguille Creuse ou La Comtesse de Cagliostro. Et ceci nous ramène au mascaret de Caudebec où nous sommes. Le nœud de l'affaire dans La Bariva est le suivant. Un homme, le père des deux sœurs, prétend avoir trouvé le secret de la fabrication de l'or. Des crimes s'ensuivent, évidemment, comme à chaque fois qu'il est question de fortune. On découvre assez vite qu'il ramassait cet or dans un petit affluent de la Seine qui s'appelle l'Aurel. On pense donc que la rivière est aurifère, ce qu'elle n'est évidemment pas. D'énigmes en grimoire déchiffré, Lupin finit par comprendre. Il comprend, je dois dire, en réalité, assez vite, et c'est le lecteur qui est laissé dans l'obscurité, ce qui est toujours de bonne méthode. Un consul romain avait enterré dans un tumulus le produit de ses rapines, en mettant de la poudre d'or dans des jarres. Aux grandes marées d'équinoxe, le mascaret, la barre donc, remontant le fleuve, pénétrait la cave et en refluant, entraînait dans la rivière des parcelles d'or. Tel était le secret. C'est à la fois le rêve d'une épargne à peu près indestructible, un rêve très 1900 en effet, et l'ultime bienfait qu'un passé lointain dispense au présent, puisque le passé proche s'est montré quant à lui inutile, méchant, cruel et dispendieux. Lupin, c'est à la fois le rêve de l'unité et celui de l'apaisement, mais d'une unité et d'un apaisement obtenu en dehors de l'ordre politique et social, et le plus souvent malgré lui. Et c'est pour cela que Maurice Leblanc n'est pas un auteur de romans policiers, au sens classique du terme. Ce n'est pas seulement parce que le personnage qu'il a créé est un anarchiste mondain.
« C'est le plus grand des voleurs !»
comme le chantait Jacques Dutronc ou, version finale,
« C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant avec ses gants, ou bien sans gants, l'Arsène !»
Ce n'est donc pas parce que le personnage qu'il a créé est un anarchiste mondain. C'est plus profondément parce que le lecteur ne se trouve pas placé dans la position d'un juge d'instruction auquel on communiquerait un dossier pour qu'il décide, mais dans celle d'un enfant qu'on doit réconforter. Le crime chez lui est indifférent. Il est simple, répétitif, souvent inspiré par la folie. Il n'y a rien à en tirer. Ce n'est pas ça qu'il veut. Je veux dire, ce n'est pas ça que Leblanc veut communiquer au lecteur. C'est un sentiment de réconfort. On peut triompher du monde. Le passé recèle des trésors. Notre destin n'est pas celui des enfants humiliés. La punition des coupables est moins importante que la réparation et peut-être que le bonheur, inlassablement cherché dans l'aventure. Le mal, après tout, n'est que ce mascaret que nous voyons ici à Côte-Bec. Il reflue et il laisse de l'or dans son sillage pour qui sait voir. C'est le miracle de la Seine. Vive les jumelles, vive Arsène Lupin, vive l'anarchie.